La fruitière Virginie, prévenue que son fils était rentré, revint presque aussitôt et trouva la maison vide. Elle attendit sans s'étonner d'abord, puis, au bout d'un quart d'heure, elle s'informa. Les voisins de la rue Dauphine avaient vu entrer Isidore et ne l'avaient point vu ressortir, donc on le chercha. On ne le découvrit point. La fruitière, inquiète, courut à la mairie. Le maire ne savait rien, sinon qu'il avait laissé le rosier devant sa porte. Madame Husson venait de se coucher quand on l'avertit que son protégé avait disparu. Elle remit aussitôt sa perruque, se leva et vint elle-même chez Virginie. Virginie, dont l'âme populaire avait l'émotion rapide, pleurait toutes ses larmes au milieu de ses choux, de ses carottes et de ses oignons. On craignait un accident. Lequel ? Le commandant des bars prévint la gendarmerie qui fit une ronde autour de la ville. Et on trouva, sur la route de Pontoise, le petit bouquet de fleurs d'oranger. Il fut placé sur une table autour de laquelle délibéraient les autorités. Le rosier avait dû être victime d'une ruse, d'une machination, d'une jalousie, mais comment, quels moyens avait-on employé pour enlever cet innocent? Et dans quel but? Las de chercher sans trouver, les autorités se couchèrent. Virginie seule veilla dans les larmes. Or, le lendemain soir, quand passa à son retour la diligence de Paris, Gisors apprit avec stupeur que son rosier avait arrêté la voiture à 200 mètres du pays, était monté, avait payé sa place en donnant un louis dont on lui remit la monnaie, et qu'il était descendu tranquillement dans le cœur de la grande ville. L'émotion devint considérable dans le pays. Des lettres furent échangées entre le maire et le chef de la police parisienne, mais n'amenèrent aucune découverte. Les jours suivaient les jours, la semaine s'écoula. Or, un matin, le docteur Barbesole, sorti de bonne heure, aperçut, assis sur le seuil d'une porte, un homme, vêtu de toile grise et qui dormait, la tête contre le mur. Il s'approcha et reconnut Isidore. Voulant le réveiller, il n'y put parvenir. L'ex-rosier dormait d'un sommeil profond, invincible, inquiétant. Et le médecin, surpris, alla requérir de l'aide afin de porter le jeune homme à la pharmacie Boncheval. Lorsqu'on le souleva, une bouteille vide apparut cachée sous lui, et l'ayant flairée, le docteur déclara qu'elle avait contenu de l'eau-de-vie. C'était un indice qui servit pour les soins à donner. Ils réussirent. Isidore était ivre. Ivre et abruti par 8 jours de soûlerie. Ivre et dégoûtant à ne pas être touché par un chiffonnier. Son beau costume de coutil blanc était devenu une loque grise, jaune, graisseuse, fangeuse, déchiquetée, ignoble. Et sa personne sentait toutes sortes d'odeurs d'égouts, de ruisseaux et de vices. Il fut lavé, sermonné, enfermé et pendant 4 jours ne sortit point. Il semblait honteux et repentant. On n'avait retrouvé sur lui ni la bourse aux 500 francs, ni le livret de caisse d'épargne, ni même sa montre d'argent, héritage sacré laissé par son père, le fruitier. Le 5e jour, il se risqua dans la rue Dauphine. Les regards curieux le suivaient, et il allait le long des maisons, la tête basse, les yeux fuyants. On le perdit de vue à la sortie du pays vers la vallée. Mais 2 heures plus tard, il reparut, ricanant et se heurtant au mur. Il était ivre, complètement ivre. Rien ne le corrigea. Chassé par sa mère, il devint charretier et conduisit les voitures de charbon de la maison Pougrisel qui existe encore aujourd'hui. Sa réputation d'ivrogne devint si grande, s'étendit si loin qu'à Évreux même, on parlait du rosier de Madame Husson et les pochards du pays ont conservé ce surnom. Un bienfait n'est jamais perdu.